Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Retour à Wuhan, 2 ans après le premier mort du Covid. La Chine suit toujours la politique zéro Covid. Des millions de personnes confinées dans 3 villes après la découverte de quelques cas. Comment les entreprises s'adaptent? Reportage dans un instant. À l'inverse, en France, le gouvernement décide-t-il de laisser davantage le virus circuler? La politique de test est assouplie à l'école 48 heures avant la journée de grève. En Grande-Bretagne, Boris Johnson est à nouveau mis en cause pour une garden party à Downing Street en plein confinement. Dans l'actualité également, une prouesse et une curiosité scientifique. Un cœur de porc greffé à un homme aux États-Unis. Question dans quelques minutes à un chirurgien spécialiste des transplantations cardiaques. La curiosité, c'est cette planète en forme de ballon de rugby observée par le satellite Khéops. Sophie Becherel nous raconte. La présidentielle, quand des candidats importants n'ont pas les 500 signatures, appel du président du Sénat sur France Inter à tous les élus ce matin.
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui représentent une part significative de l'opinion, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Parrainer n'est pas soutenir.
Date limite le 26 février. Notre invité à 13h30 est le procureur général près la Cour de cassation, François Molins. Justice en crise, souffrance, perte de sens, conditions de travail intenables. Il a eu des mots très forts hier pour parler de la situation de la justice, au point de mécontenter le ministre Éric Dupond-Moretti. L'état de la justice en France et vos autres questions à François Molins dès maintenant. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans le vif de l'histoire, le journal de l'écrivain Julien Green, le feuilleton Une semaine dans la vie de la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et dans C'est une chanson, avec la metteuse en scène Masha Makeyev, nous écouterons Cat Stevens, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'était il y a 2 ans exactement. On parlait alors d'une mystérieuse pneumonie. Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait la mort d'un homme de 61 ans dans la ville de Wuhan. Son identité n'a jamais été divulguée. Il était le premier mort du Covid. 2 ans plus tard, le pays reste barricadé, frontières fermées. La politique zéro Covid est toujours d'actualité. Une ville de 5 millions d'habitants, Anyang, est en quarantaine après l'apparition de 4 Covid. Elle est la 3e dans ce cas. Et cette politique fait peser un climat un peu plus lourd dans un pays qui ne brille pas déjà par son ouverture. Comment les entreprises étrangères traversent-elles la période? Pour France Inter, Sébastien Berriot est retourné à Wuhan dans une entreprise française de fibre optique.
Une centaine d'ouvriers fabriquent ici dans l'usine de la société Folagne du câblage pour la 5G. En 2020, au moment de la fermeture de Wuhan, l'activité s'était arrêtée net en quelques heures. Aujourd'hui, l'entreprise s'organise pour être en mesure de produire en cas de confinement, en faisant vivre le personnel dans l'usine. Le PDG Ludovic Robert a fait des stocks de riz et acheté des lits de camp.
Nous ici, on a eu un passage de personnes qui avaient le Covid, donc ils ont fermé 2-3 arrondissements. Il vaut mieux être préparé. C'est-à-dire que nous, on va rester ici, on a tout ce qu'il faut. On a de la nourriture, on a ce qu'il faut pour faire des soupes. On est capable de travailler en vase clos à peu près pendant un mois. Voilà, s'il n'y a pas de coupure d'électricité, s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent nous perturber, en tout cas, on pourra tenir à peu près un mois.
C'est Li Jiahu, responsable qualité, qui supervise le nouveau protocole.
Certains employés peuvent loger dans des dortoirs, ce qui signifie qu'ils restent dans l'usine en permanence et que leur sécurité est garantie. Si l'épidémie revient, ils peuvent quand même travailler. Par ailleurs, nous stockons une certaine quantité de matières premières. Ces stocks nous permettront de produire pendant un certain temps.
L'entreprise ne veut prendre aucun risque. Dès qu'un ouvrier présente des symptômes, même bénins, il est aussitôt isolé et transporté à l'hôpital. Wuhan, Sébastien Berriot, France Inter.
Voilà pour ce reportage en Chine. 2 ans après l'annonce officielle d'un premier mort du Covid, le bilan certainement sous-estimé est de 5,5 millions de morts dans le monde, près de 126 000 en France. Et 2 ans après l'apparition de l'épidémie en France, l'hôpital tient pour l'instant face à la nouvelle vague, version Omicron. Mais c'est l'organisation de la société qui est soumise à un test très rude avec ce variant hyper contagieux. Dans les écoles, collèges et lycées, 10 453 classes fermées, annoncé hier le Premier ministre. Pour laisser les établissements ouverts, priorité numéro 1, et limiter les files d'attente devant les pharmacies et centres, la politique de test est assouplie. Un cas positif dans la classe, plus besoin de tests PCR ou antigéniques pour les autres élèves. À partir de vendredi au plus tard, 3 autotests gratuits au fil des jours feront l'affaire. Autotests donc délivrés gratuitement sur attestation de l'école. Ensuite, une déclaration sur l'honneur des parents selon laquelle l'enfant ou l'adolescent est négatif suffira pour qu'il revienne à l'école. Et dès aujourd'hui, plus besoin de venir chercher l'enfant cas contact dans la seconde. Cela peut attendre la fin de journée. Le climat est tendu dans les écoles. Appel à la grève jeudi, à laquelle se joignent les parents d'élèves de la FCPE. Mais il y a aussi des initiatives sur le terrain, ici ou là. Exemple à Cherbourg, lycée Tocqueville. Une salle est réservée aux autotests. Reportage Pierre Coquelin, France Bleu Cotentin.
Les élèves qui cherchent avant tout à se rassurer avant de débuter les cours.
Bah, ce matin, en arrivant pour aller en cours, j'ai appris que dans ma classe, il y avait un cas positif.
Bah, ça me rassure. Parce que je suis avec ma grand-mère chez moi.
Les tables sont désinfectées après chaque élève. La salle est ouverte chaque jour de 7h30 à 16h, sauf le mercredi jusqu'à 13h. Tous les personnels du lycée sont appelés à mettre la main à la pâte. Elisabeth est une des deux infirmières de l'établissement.
Des enseignants volontaires ou des gens de l'intendance ou même les chefs, tout le monde s'y met une heure chacun pour qu'on puisse passer le plus possible d'élèves qui ont des doutes ou qui sont qu'à contact de positif.
Une infirmière qui a un rôle clé, c'est elle qui enclenche le processus en cas de test positif d'un élève. Elle appelle la famille, recense les contacts, envoie l'élève passer un test antigénique de confirmation. Le proviseur Frédéric Giraud souligne l'esprit de responsabilité des élèves.
Dès la première semaine, on en passe 800 et on en donne presque 300. Et si on duplique ça sur la deuxième semaine, vous voyez que ça fera énorme. Mais je pense que derrière, ça va se réguler. Vous voyez, c'est le contexte qui fait. Donc on a un stock qui, à mon sens, est suffisant pour aller jusqu'au 4 février.
La semaine dernière, 17 cas positifs ont été recensés parmi les 1250 élèves de l'établissement et 5 parmi le personnel.
Alors on comprend bien l'intérêt de ce nouveau protocole en termes d'organisation. En termes sanitaires, de fait, les mailles du filet sont élargies, le risque de contamination est plus élevé. Toutes les études à ce stade sur le variant Omicron établissent qu'il est à la fois plus contagieux et moins dangereux. Je vous rappelle les chiffres de l'épidémie en France. Près de 270 000 nouveaux cas quotidiens sur la semaine passée. 22 800 patients à l'hôpital, la plupart en soins conventionnels. 3 900 en soins critiques. Les chiffres augmentent, mais peu. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Face à ce constat, Simon, et après l'annonce du nouveau protocole à l'école, on se demande si la politique n'est pas en train de changer. Le gouvernement ferait-il le choix de laisser davantage circuler le virus ?
Non, Bruno, non, en tout cas, personne ne l'admettra, ni à l'Élysée, ni à Matignon. Si ce protocole scolaire a été allégé, bien c'est simplement qu'il n'était pas réaliste, assure-t-on au ministère de la Santé. Pour le reste, officiellement, la stratégie ne change pas d'un iota. Vaccination, pression sur les non-vaccinés, gestes barrières et tests massifs. Malgré les files d'attente interminables devant les labos et les pharmacies, l'exécutif n'a pas l'intention de tester moins. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une demande des Français, explique un conseiller, qui met en avant l'utilité sociale et psychologique de cette politique de tests tous azimuts. Autrement dit, en revenant dessus en pleine vague Omicron, le gouvernement pourrait donner l'impression qu'il renonce à protéger les Français. Ce n'est donc pas le moment, mais cela pourrait bien changer après le pic des contaminations espéré dans les prochains jours. La Direction Générale de la Santé propose en effet de réserver les tests en priorité à ceux qui ont des symptômes, aux cas contacts à risque, à ceux qui ont une prescription médicale ou à ceux qui doivent voyager. Et selon nos informations, l'exécutif étudie de près ces recommandations. Elles pourraient être au menu d'un prochain conseil de défense.
Et cet après-midi, le Sénat examine en séance le projet de loi sur le pass vaccinal. Après l'examen en commission hier, les sénateurs ont ajouté au texte un mécanisme d'extinction automatique de ce pass. Il disparaîtrait à moins de 10 000 patients à l'hôpital. Un nombre clé, encore un, en ce début d'année, c'est 300. 300 plaintes pour menaces de mort déposées par des élus nationaux ou médiatisés, selon le ministre de l'Intérieur. Plainte déposée depuis le mois de juillet et l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Le climat se tend. Dans le contexte, il y a aussi les mots du président de la République la semaine dernière, la volonté d'emmerder les non-vaccinés. Et dans les communes, les maires, qui ne subissent pas fort heureusement des menaces violentes tous les jours, les maires doivent composer avec ce climat. Organisation du quotidien compliqué, administrée sur les nerfs. Parole de maire en Charente et Charente-Maritime, Solène Gardré, France Bleu La Rochelle.
Il est fatigué d'être en première ligne face aux mécontents. Claude Baudin est le maire de Saint-Palais-sur-Mer. Il reçoit de nombreuses plaintes, par exemple de non-vaccinés qui ne veulent pas payer les tests PCR.
On prend des lettres d'insultes et tout. Qu'est-ce qu'on y peut ? C'est une décision gouvernementale. C'est pour nous qu'avons décidé de faire payer ceux qui n'étaient pas vaccinés aujourd'hui. C'est pour les maires.
Il y a aussi ceux qui ne sont pas contents que les autres ne respectent pas les mesures.
Tous les jours, je reçois 3 ou 4 lettres en mairie. Monsieur le maire, on a vu des gens qui se promenaient sans masque. Ben, je leur dis oui, mais j'ai pas un policier à mettre derrière à personne.
Et il y a ceux qui sont tout simplement perdus, constate le maire de Soyaux, François Nebout.
On est inondé de consignes, le pass sanitaire, les vaccinés, les non-vaccinés, est-ce qu'il faut deux piqûres pour certains, trois pour d'autres. Je pense qu'il faut gagner à être largement simplifié, à être moins technocratique.
Certains ont trouvé des solutions, comme à Saint-Jean-d'Angély, où la maire et médecin Françoise Ménard utilise beaucoup ses réseaux sociaux.
J'ai énormément de questions sur Messenger. J'explique ce que c'est un vaccin, comment il fonctionne, les résultats des principales études. Je rassure.
Un système qui marche bien parce qu'à Saint-Jean-d'Angély, il n'y a que 7000 habitants, nuance Françoise Ménard. Plus compliqué dans une grande ville de discuter avec son maire sur Messenger.
En Martinique et en Guadeloupe, le regain épidémique est puissant. Taux d'incidence 2800 en Guadeloupe. Dans les écoles, on fait appel aux retraités et à d'autres renforts pour remplacer les absents. Incidence près de 2000 en Martinique. Nous allons tout faire pour éviter le confinement, dit le préfet. En Europe, au rythme actuel de propagation du virus, plus de la moitié des habitants auront été touchés d'ici à 2 mois, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en Grande-Bretagne, une nouvelle fois, Boris Johnson est accusé d'avoir violé les règles qu'il fixe lui-même. Après les fêtes en décembre 2020, voici la Garden Party au printemps 2020, en plein confinement. Une centaine de personnes à Downing Street, en présence, selon la presse, de Boris Johnson et son épouse. À Londres pour France Inter, Laura Calmus.
C'est un email très explicite qui a fuité hier soir dans lequel l'un des secrétaires de Boris Johnson invitait une centaine d'employés à venir, avec leur propre alcool, profiter du beau temps dans les jardins de Downing Street. Première révélation de l'année qui s'ajoute aux accusations de fêtes de Noël clandestines qui avaient été révélées en décembre dernier et qui auraient eu lieu en plein confinement. La police a d'ailleurs confirmé hier soir être en contact avec le gouvernement et qu'une enquête pour violation des règles sanitaires était en cours. Ce matin, sur la chaîne Sky News, le secrétaire d'État à la Santé tentait de temporiser.
Je peux comprendre que les gens soient bouleversés et en colère après ces allégations. C'est pourquoi il est juste que le Premier ministre ait demandé qu'une enquête indépendante soit menée à bien rapidement pour déterminer les faits derrière ces allégations.
Boris Johnson n'a pas souhaité préciser s'il était lui-même présent à cette garden party qui aurait eu lieu en mai 2020 alors que les rassemblements de plus de 2 personnes étaient interdits. Mais il aura sans doute du mal à s'extirper de cette dernière affaire sans explication, alors que plusieurs médias affirment qu'il était de la partie avec sa femme Carrie. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Dans la série, les règles sont-elles les mêmes pour tout le monde? Novak Djokovic participera-t-il à l'Open d'Australie bien que non vacciné à partir de lundi? On attend toujours le feu, vert ou rouge, des autorités australiennes. À ce stade, il est inscrit tête de série numéro 1 et il s'entraîne sur le site après avoir pu quitter le centre de rétention où il était cantonné. Un candidat de plus à la présidentielle, le philosophe Gaspard Koenig, 39 ans, se lance. Idée principale, simplifier la vie des Français, réduire par 100 le nombre de normes dans notre pays qu'il présente comme une prison bureaucratique. Aura-t-il ses 500 parrainages? D'autres candidats, et pas des moindres, n'y sont pas encore à les croire. 300 parrainages pour Éric Zemmour, 400 pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen non plus n'aurait pas le compte. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Ils ont jusqu'au 26 février, ce n'est pas si loin, pour collecter ces parrainages. Et ce matin sur France Inter, le président du Sénat les a défendus.
Oui, aucune ambiguïté de la part de Gérard Larcher. Très clair ce matin, il lance un appel au maire à parrainer sans soutenir.
Moi, je souhaite que les élus utilisent pleinement leur droit de parrainage, qu'ils le fassent sans crainte, en rappelant que parrainer n'est pas soutenir. Moi, je parrainerai Valérie Pécresse. Mais je ne ferai pas de procès d'intention à un élu qui ferait un autre choix.
Alors, Gérard Larcher s'adresse à tous les maires, hein, pas seulement les LR, on l'a bien compris. Cela dit, son appel n'est pas tout à fait dans la ligne rappelée par Valérie Pécresse hier encore.
Et non, et c'est Geoffroy Didier qui a semé le doute. Ce très proche de Valérie Pécresse a expliqué sur un plateau de télévision qu'un maire LR qui parrainerait quelqu'un d'autre que la candidate s'exclurait de lui-même du parti. Alors aujourd'hui, le camp Pécresse précise... La ligne, notre ligne, c'est de permettre au maire LR de parrainer un autre candidat qu'elle, par exemple Éric Zemmour, mais à condition de préciser que ce n'est pas un soutien politique, mais un acte démocratique. Bref, LR cherche de la clarté.
Quoi qu'il en soit, à propos des parrainages en général, c'est trop tard pour changer les règles, Anne.
Alors, sur le papier, en tout cas, ce serait très compliqué. Plus que 19 jours avant la publication du décret qui régit le déroulement de la présidentielle. Si le gouvernement voulait revenir à l'anonymisation, il faudrait aller très vite. Et pour l'instant, eh bien, il ferme la porte. Les candidats qui agitent le drapeau des parrainages jouent les victimes. Même Asselineau les a eu en 2017, taclé ce matin le ministre de l'Intérieur.
Trop tard pour changer et les règles des parrainages et aussi certainement pour adapter l'organisation de la présidentielle au contexte sanitaire. Mais Jean Castex recevait en fin de matinée les chefs des grands partis politiques et les candidats à la présidentielle pour discuter de l'organisation de la campagne. Et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a reçu ce matin à sa demande le ministre de l'Intérieur pour envisager des mesures qui seraient rendues nécessaires par la pandémie et garantir le bon déroulement de l'élection. C'est le communiqué du Conseil constitutionnel. Et à 89 jours du premier tour, le pouvoir d'achat est parmi les thèmes de campagne. Comment tenir la promesse de contenir la hausse du prix de l'électricité à 4% alors que l'augmentation réelle sur les marchés est de 30 à 40%. La commission de régulation de l'énergie était réunie ce matin. Bel exercice de casse-tête, Delphine Simon.
Si on ne fait rien aujourd'hui, ce sera le coup de bambou en 2023, prévient le ministère de la Transition écologique. Sur les marchés de gros, l'augmentation des prix est de 40% contre 12% attendu cet automne. De quoi renchérir le coût du bouclier tarifaire pour l'État, 8 milliards d'euros, mais agir sur les taxes ne suffira pas. L'an prochain, le rattrapage pour les particuliers pourrait atteindre 15%. Bon courage à la prochaine majorité, quelle qu'elle soit, confie-t-on à Bercy. La commission de régulation de l'énergie, qui est chargée de calculer la hausse du tarif le 1er février, se réunit ce matin. Elle pourrait proposer de limiter l'impact de l'envolée des prix qui ont doublé en décembre. Une façon d'amortir le choc, mais ça ne suffira pas non plus. Le gouvernement cherche des solutions pour tenir sa promesse, réaffirme ce matin la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
On va tenir cet engagement. L'augmentation de l'électricité, elle sera maintenue à 4% comme ça a été annoncé sur toute l'année 2022. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que le fait qu'on maintienne les prix en 2022 entraîne des augmentations en 2023. Et donc, on est en train de travailler à des solutions pour cela.
Parmi les pistes, relever la proportion d'électricité moins chère que EDF est obligé de fournir à ses concurrents, c'est l'ARENH. Mais il va falloir tordre le bras à l'électricien qui dénonce un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros alors qu'il fait face à un mur d'investissement dans le nucléaire.
Dans l'actualité économique, encore un syndicat et le comité économique et sociale de General Electric, l'entité turbine à gaz à Belfort, porte plainte contre leur entreprise. En cause, les pratiques d'optimisation fiscale qui confinent, selon eux, à la fraude au droit à la participation des salariés. Ils réclament un rattrapage de participation sur les 5 dernières années. C'était une promesse d'Emmanuel Macron prononcée en 2020, 5 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. La création d'une maison du dessin de presse et du dessin satirique. Plusieurs villes, dont Limoges, Saint-Jules-Martel et Strasbourg, s'étaient portées candidates. 2 ans plus tard, avant l'annonce officielle prévue ce soir en principe, c'est Paris qui a été retenu selon nos informations, ce qui passe très mal dans le Limousin, Matteo Mastracci.
Et le mot qui revient le plus souvent, c'est mépris dans les réactions en Haute-Vienne, comme dans ce tweet du président du conseil départemental Jean-Claude Leblois. La ville de Limoges était associée dans sa candidature au village voisin de Saint-Just-le-Martel, où se tient depuis 40 ans un salon international de la caricature et du dessin de presse, avec un fonds déjà constitué sur place de 10 000 dessins originaux, entre autres. De quoi s'estimer légitime, d'autant que le choix de Limoges bénéficiait, selon nos confrères du Monde, du soutien de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot elle-même, au nom d'un aménagement du territoire, mais Paris avait à l'inverse la préférence de la rédaction de Charlie Hebdo. Et c'est donc dans la capitale que cette maison vaste de 1800 m² sera située. Dans un communiqué, le centre de la caricature de Saint-Just-le-Martel parle lui aussi de mépris, d'injustice et même de gifle aux 250 dessinateurs qui viennent chaque année au festival.
C'était en décembre 2017, la collision entre un car scolaire et un train à un passage à niveau à Milaz dans les Pyrénées-Orientales. 6 collégiens étaient morts. La conductrice de l'autocar sera jugée pour homicide involontaire.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Rodrigue, as-tu du cœur ? Oui, un cœur de porc. C'est l'exploit médical de ce début d'année. Une première mondiale, un cœur de porc greffé à un patient dans le Maryland. Aux États-Unis, c'était vendredi dernier. Première fois qu'un cœur d'animal est greffé à un être humain. Et cela suscite évidemment beaucoup de curiosité et de questions. Bonjour, docteur Julien Guillère.
Bonjour monsieur.
Vous êtes chirurgien cardiaque, spécialiste des transplantations. Vous exercez à l'hôpital Marie-Lannelongue du Plessis-Robinson en banlieue parisienne. Petite question d'abord. Évidemment, nous, grand public, nous sommes absolument époustouflés. Est-ce que vous aussi vous dites « Waouh, quel exploit !»
Alors oui, tout à fait. C'est une avancée majeure dans le domaine de la transplantation. On s'y attendait parce que depuis à peu près 3 décennies, il y avait de nombreux travaux expérimentaux sur des modèles animaux, notamment sur des grands primates non humains, avec des transplantations cardiaques de porcs réalisées sur ces modèles animaux. Et en fait, il y a 3 ans, on a vu une avancée majeure avec une survie prolongée de ces animaux qui vivaient avec un cœur de porc. Ils ont pu les maintenir en vie pendant 6 à 18 mois.
Oui. Pourquoi un cœur de porc ?
Pourquoi un cœur de porc ? Parce que tout d'abord, l'anatomie du porc, du cœur de porc, est très proche, pour pas dire quasiment identique, à celle d'un cœur humain.
Oui.
Deuxièmement, la fonction du cœur est également la même que celle d'un cœur humain. Sa physiologie, c'est-à-dire sa contraction, ses battements, sont très superposables à ceux d'un cœur humain. Donc oui. On peut imaginer substituer un cœur humain par un cœur de porc.
Alors, il a été génétiquement modifié. L'objectif, c'est d'éviter les rejets, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, en partie, parce que effectivement, ce type de transplantation, c'est ce qu'on appelle une xénogreffe, c'est-à-dire une transplantation inter-espèce entre 2 espèces animales différentes. Et donc, par définition, il va y avoir un rejet immédiat de ce type d'organe si on le transplante tel quel, sur un être humain. Donc, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont modifié le patrimoine génétique des cochons, des porcs, pour les rendre compatible avec l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont modifié la carte d'identité immunologique, c'est-à-dire que notre identité, l'identité de l'animal, est telle que le corps humain ne va pas le reconnaître comme étant un organe d'origine porcine.
Ouais.
Donc, tout ça pour éviter les phénomènes de rejet hyper aigus. Maintenant, il faut rester prudent parce que on ne sait pas la durabilité de ce type de manipulation dans le temps, et notamment si ça va éviter ce qu'on appelle le rejet chronique, qui est quand même une complication dont on a à faire face en transplantation régulièrement.
Alors c'était la question suivante, quel délai raisonnable pour dire oui, ça a marché, il n'y a pas de rejet, en tout cas pas dans un premier temps? C'est quoi, c'est un délai de quelques semaines, quelques mois, comment ça se passe?
Je pense qu'effectivement, il faudra un petit peu de recul. Il faut se donner généralement au minimum 1 an.
Voilà, oui.
La première année, c'est souvent l'année la plus difficile pour les patients en transplantation parce que c'est la première année où ils sont plus à risque de faire du rejet aigu. Et donc, on peut s'attendre effectivement à avoir un petit peu la même chose avec ce type d'intervention. Donc, au moins minimum 1 an de recul pour voir un petit peu ce que cette intervention peut donner. Et ensuite, à long terme, est-ce qu'on aura des phénomènes à nouveau de rejet, d'immunotolérance qui vont se développer chez le patient en question?
On parle du manque de greffe dans un instant, docteur Guillère. D'abord, question toute bête, on a choisi un cœur de porc comparé à un cœur artificiel, avantage, inconvénient, pourquoi un cœur d'animal plutôt qu'un cœur artificiel?
La première raison, c'est que pour se rapprocher le plus possible de la fonction du cœur humain, il n'y a pas mieux qu'un organe animal.
Oui.
C'est-à-dire qu'il va pouvoir reproduire exactement les battements du cœur, la même anatomie. Et puis après, il y a une contrainte aussi de ce qu'on appelle de biocompatibilité. Il faut que le sang qui circule à l'intérieur de l'organe circule librement et qu'il n'y ait pas de coagulation du sang qui puisse boucher en fait les artères et les valves et qui altérerait la fonction de l'organe. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte avec les organes artificiels, les cœurs artificiels qui sont également à disposition sur le marché, ils ont beaucoup de contraintes. Des contraintes en termes d'encombrement, ils sont souvent volumineux, des contraintes en termes de sources d'énergie, il faut toujours qu'il y ait un cap d'alimentation qui fournisse l'énergie à la pompe qui est à l'intérieur du corps, et puis ils ont comportent des risques d'infection, parce que c'est quand même un matériel étranger à l'intérieur du corps, et puis des problèmes de compatibilité sanguine, de risque d'hémorragie notamment, parce que tous ces patients-là doivent être mis sous anticoagulants. Donc en fait, les cœurs artificiels sont des solutions le plus souvent qu'on utilise en attente d'une transplantation cardiaque.
Et si on...
Pour l'instant, ce ne sont pas des solutions pérennes à long terme.
Voilà, si on choisit un cœur d'animal, c'est aussi parce qu'on manque de greffe. Je crois que le chiffre, c'est 5 à 600 malades qui meurent chaque année faute d'avoir été greffés.
Alors, en France, les chiffres officiels de l'Agence de la biomédecine, sur les patients en tout cas qui sont inscrits en liste d'attente de greffe, il y a à peu près 60-70 patients qui décèdent en attente de greffe.
Oui.
D'accord, mais ça, ce sont ceux qui ont eu accès, entre guillemets, et qui sont sur liste d'attente.
Oui.
Il faut penser aussi qu'il y a un certain nombre de patients que l'on récuse, entre guillemets, pour la transplantation, soit parce qu'ils sont à un état trop avancé de la maladie, ou bien parce qu'effectivement, ils attendent depuis trop longtemps et on ne peut pas leur donner accès à la greffe parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, on manque de greffons, on manque de donneurs. Et donc cette xénogreffe pourrait être une perspective pour élargir le nombre potentiel de transplantations.
Merci beaucoup, docteur Guillard, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous qui êtes spécialiste des transplantations cardiaques, hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson. Dans la série Curiosité scientifique, parlons à présent d'une planète en forme de ballon de rugby. Pour la première fois, le satellite Khéops a permis d'en détecter une dans la constellation d'Hercule à 1800 années-lumière d'ici. Elle est deux fois plus grosse que Jupiter, elle tourne autour de son étoile. En une journée, distance très courte, la planète en question subit une force qui la déforme. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Et des chercheurs français font partie de l'équipe qui publie ce matin les résultats de l'observation dans la revue Astronomy and Astrophysics.
Oui, c'est une toute première détection. Elle a nécessité des années de recherche car pour voir cette déformation, il fallait une grosse planète et de bons yeux. Les bons yeux, c'est donc un télescope spatial, ici Khéops. La grosse planète, c'est WASP-103b, une géante gazeuse. Elle fait, vous l'avez dit, le tour de son étoile en une journée, quand il faut à Jupiter 12 ans pour faire le tour du Soleil. Si ça va vite, c'est parce que WASP-103b est toute proche de son Soleil, précise Jacques Lascar, chercheur à l'Observatoire de Paris et co-auteur de cette découverte.
Cette planète, elle est 50 fois plus près de son étoile que la Terre. Donc en fait, c'est une planète extrêmement proche de son étoile, avec du coup une température à sa surface qui est énorme, qui est de l'ordre de 2000 degrés, donc totalement inhabitable.
L'influence de l'étoile toute proche peut être comparée à celle qu'exerce la Lune sur la Terre. La Lune, responsable des marées, mais aussi, on le sait moins, d'une légère déformation de notre globe terrestre. Pour vérifier si la même chose se produisait sur WASP-103b, les astronomes ont observé à 12 reprises le passage de la planète devant son étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Elle fournit comme en ombre chinoise la silhouette de la planète. Et c'est là qu'est apparue cette forme en ballon de rugby, explique Jacques Lascar.
Un peu moins allongé qu'un ballon de rugby, mais déformé de la même manière qu'un ballon de rugby, de la même manière qu'à la surface de la Terre, eh bien, on a une déformation qui est due à l'effet de marée de la Lune. On a une déformation de 30 cm de la Terre. Là, la déformation va être extrêmement grande, de l'ordre de 10%. Et ici, on a un bourrelet de 10 000 km. Dans la direction de l'étoile.
Avec cette découverte, les astronomes vont pouvoir mieux comprendre la structure interne de cette planète et bientôt, grâce au télescope James Webb, tout juste lancé, ils obtiendront un niveau d'information inégalé.
Voilà pour l'actualité des sciences, l'actualité de la justice. Elle s'appelait Vanessa Campos, elle était prostituée, trans. Elle travaillait dans le bois de Boulogne, aux portes de Paris. Le 9 août 2018, elle a été tuée. Le procès s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises. 9 hommes jugés, 3 directement pour le meurtre. L'affaire avait mis en lumière les violences dont sont victimes les prostituées dans le bois de Boulogne. Et une association qui les accompagne avait dénoncé non seulement un meurtre transphobe, mais aussi des conditions de travail toujours plus dangereuses depuis la loi de 2016 sur la pénalisation des clients. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Cette politisation de l'affaire, entre guillemets, a été débattue dès le début de l'audience ce matin, Mathilde.
Oui, une question cristallise les débats, celle de savoir si l'association Acceptes, qui défend les personnes trans et suit les prostituées du bois de Boulogne, peut se constituer partie civile ou si elle doit simplement être entendue comme témoin. L'avocate de l'association donne de la voix. Si Vanessa Campos a été tuée, c'est parce qu'elle se trouvait là-bas, parce qu'elle était travailleuse du sexe, parce qu'elle était femme, parce qu'elle était trans et parce que la loi de 2016 oblige les travailleuses à s'isoler toujours plus loin dans le bois. Maître Edari rappelle que les amis et collègues de Vanessa Campos, qui se sert sur le banc des parties civiles, était menacée par une bande de jeunes dont certains se trouvent dans le box. Mais cette lecture n'est pas celle des avocats de la défense des 9 accusés. Ce que dénonce l'association, c'est une situation d'ensemble, mais pas les faits, assure l'un des avocats. Le sexe de la victime, son genre, n'a eu aucune influence sur ce qui s'est passé, conclut-il. La cour n'a pas encore tranché. L'audience est suspendue. Elle devrait reprendre dans une dizaine de minutes.
Mathilde Vinceneux, en direct de la cour d'assises de Paris. La justice, l'état de la justice en France. On en reparle dans quelques petites minutes avec notre invité François Molins. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et puis un tout petit mot de football. L'Algérie remet son titre en jeu dans la Coupe d'Afrique des Nations à partir de cet après-midi. 14h entrée en compétition face au Sierra Leone. La météo à suivre.
Notre première rencontre, c'était sur la piste de danse, à une sortie disons demain.
Tu ne savais pas où placer tes mains.
Et tu m'as même écrasé le pied.
Tout le monde nous regardait.
Et moi, je ne voyais que toi.
Vous aussi, provoquez le destin et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans aux sorties disons demain. Liste disponible sur disonsdemain.fr. France Inter aime.
M'expliquer ce que vous faites ici, Madame Vinclair, quand vous courez après les heures de ménage.
Ouistreham, un film d'Emmanuel Carrère, d'après le livre de Florence Aubenas.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, la précarité, d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien.
Une écrivaine entreprend un livre sur le travail précaire et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Avec Hélène Lambert, Léa Carn, Evelyne Poré, Patricia Prieur, Émilie Madeleine et Juliette Binoche, Ouistreham, le 12 janvier au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Eh bien, bonne nouvelle, retour au calme aujourd'hui.
Oui, sur le sud-ouest, un temps sec et ensoleillé s'installe. Alors les crues, elles se poursuivent sur de nombreux cours d'eau. 8 départements restent en vigilance orange de la côte aquitaine à la Haute-Garonne. Attention aux avalanches, le risque reste fort sur l'est de la chaîne pyrénéenne. Ailleurs, le soleil revient. Quelques grisailles peuvent tout de même résister par endroits, notamment vers le nord-est, les vallées auvergnates ou alpines ou alors vers la Garonne. Du nord-ouest à la côte d'Opale, là, ça reste gris toute la journée avec quelques gouttes possibles. Il y a du vent en Méditerranée et des températures toujours contrastées avec 7 à 15 degrés sur le tiers ouest et en Méditerranée et 2 à 7 ailleurs.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
L'hôpital, l'école, la police, la justice, il n'est pas un grand service public où ne s'exprime un malaise en ce début d'année 2022. L'impression ou le constat d'un décalage entre les missions attribuées aux agents et les moyens qui leur sont accordés. Dans le domaine de la justice, des états généraux sont en cours. Ils se tiennent alors qu'une tribune lancée par de jeunes magistrats détaillant les manifestations de cette crise a été signée par une immense majorité de la profession, 7000 magistrats et greffiers. Il y a 9000 magistrats en France. Le gouvernement fait valoir que le budget de la justice a bénéficié de hausses de crédit jamais vues, 2 années de suite, plus 8%. J'ai réparé l'urgence, répète le ministre de la Justice. Hier, le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, l'un des plus hauts magistrats de France, l'un des rares clairement identifiés par le grand public depuis l'époque où il rendait compte régulièrement de l'avancée des enquêtes après les attentats, a fait une nouvelle fois ce constat d'une crise lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions au procureur général près la Cour de cassation. Bonjour François Molins.
Bonjour Bruno Duvic.
Vous avez eu hier des mots particulièrement forts, monsieur Molins. Il est question d'une crise que nul ne peut nier, qui entraîne souffrance et perte de sens, des conditions de travail intenables.
Écoutez, j'ai voulu tenir un discours de vérité. Nous avions, avec le Conseil supérieur de la magistrature, reçu les 9 signataires de cette tribune, les 9 signataires premiers et historiques. Hein. Moi, j'ai moi-même des contacts avec des jeunes magistrats assez régulièrement. Et on avait entendu des choses particulièrement fortes dans lesquelles, effectivement, il y a deux mots qui revenaient souvent. C'était les mots honte des conditions de travail et souffrance. Et ces jeunes nous ont expliqué en réalité que c'était une souffrance particulière, c'est peut-être pas la souffrance au travail telle qu'on l'entend habituellement, c'est une souffrance d'ordre éthique qui est causée au quotidien dans leur esprit par le décalage qui existe entre la noblesse de leur mission et la précarité des conditions dans lesquelles ils l'exercent.
Vous avez des exemples précis de ce que vous ont pu dire ces signataires ou de ce que vous constatez, vous ?
Écoutez, je pense que je vais prendre dans un domaine qui m'est pas le plus familier, mais le domaine civil, par exemple. Quand vous avez devant des juges d'affaires familiales un temps d'explication de 5 minutes qui est donné au conseil pour s'expliquer, c'est peut-être pas beaucoup, effectivement, en termes d'humanisation de la justice pour statuer sur un cas. Quand vous avez des dizaines et dizaines de dossiers qui doivent être suivis à la même audience par un juge de la maison de l'État, c'est pas non plus forcément optimal. Donc je pense qu'en réalité, il y a un climat qui fait que le système n'a tenu très longtemps que grâce au dévouement sans limite des magistrats et des fonctionnaires, des greffiers notamment. Et c'est cela effectivement qu'on a voulu dénoncer, même s'il n'est pas question de nier le chemin qui a été fait depuis le début de ce quinquennat. Hein. Je rappelle plus 22% de crédits supplémentaires votés en loi de finances initiale pour le programme justice judiciaire, 850 greffiers, 850 magistrats, 650 magistrats, 850 greffiers.
2000 contractuels.
2000 contractuels et non pas 1000, comme je l'ai dit hier au cours de mon discours, mais c'est une erreur que j'assume et qui a été corrigée immédiatement sur le discours qui a été mis en ligne et qui, de toute façon, ne règle pas le fond du sujet. Moi, je rappelle que ces efforts ils sont réels, ils sont reconnus, ils sont quand même récents. Je rappelle qu'en 2016, le garde des Sceaux de l'époque, en arrivant, M. Hervoas, avait stigmatisé l'état de clochardisation de la justice. Ouais. Donc ces efforts, ils sont réels. Simplement, il faut les continuer. Et si on veut qu'ils atteignent leurs résultats, il faut que la justice soit en état de régler les problèmes structurels qu'elle connaît depuis 25 ans. Problèmes structurels qui sont effectivement, qui renvoient à cette question que je posais hier. Il suffit pas pour l'État et pour Bercy de donner des moyens. Il faut aussi qu'on soit en mesure de justifier que ces moyens soient correctement répartis et utilisés. Et ça, ça renvoie en réalité à la nécessité de corriger ces problèmes structurels qu'on a depuis des années, dont on pourra parler tout à l'heure si vous voulez.
Allons-y tout de suite, parce que ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas qu'une question de moyens.
C'est une question de moyens et d'organisation. Mmh. L'institution doit se réorganiser, notamment au plan des différents échelons de gestion sur la carte judiciaire des cours d'appel. Elle doit se réorganiser. Je pense qu'on doit être une des seules administrations de l'État qui n'est pas capable de quantifier les besoins, les effectifs dont elle a besoin.
C'est ça. Éric Dupond-Moretti disait sur notre antenne mi-décembre qu'il a commandé un outil pour se rendre compte du manque de magistrats. Cet outil, dit-il, il faut 3 ans pour le mettre en place, qui semble incroyable.
J'ai été directeur de cabinet du garde des Sceaux. En 2010, j'ai été le premier, avec le cabinet que je dirigeais, à lancer le premier groupe de travail sur l'évaluation de la charge de travail du magistrat. Ça fait 12 ans qu'il y a des groupes de travail au sein de la chancellerie.
Et comment ça se fait que ça n'avance pas ?
J'en sais rien. Mais il faut que ça avance, encore une fois, parce que c'est ça qui suscitera la véritable confiance de l'État et qui fera qu'on aura effectivement l'ensemble des centaines et des centaines de postes de magistrats et de greffiers dont on a véritablement besoin pour avoir une justice qui soit humaine, humanisée, et qui surtout se traduise par des décisions rendues dans des délais raisonnables, parce que c'est ça qu'attendent les gens.
Alors, les comptes rendus de votre discours font état d'une colère, disons, du ministre de la Justice, qui a parlé de discours scandaleux, en faisant valoir les chiffres que vous venez vous-même, François Molins, de citer. Ça amène cette question de Maurice. Je suis ancien avocat. Je voudrais savoir pourquoi la justice, qui a eu une attitude de soumission à l'égard de l'exécutif, maintenant qu'il y a Macron, elle vient protester. Qui pose la question de la politisation au fond de ce mouvement.
Il n'y a aucune politisation dans tout ça. Moi, je dirais d'abord que je n'ai pas commenté les propos du garde des Sceaux après l'audience. C'est pas mon rôle. Je suis loyaliste et respectueux des institutions. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Ce que je voudrais dire simplement, que c'est pas la première fois qu'un procureur général à la Cour de cassation tient un discours de vérité au cours des audiences de rentrée. Je suis pas le premier.
Là, il y avait un ton un peu plus fort.
J'ai dit les choses avec ma personnalité et mon tempérament, sans faux fuyant. Par contre, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a un discours de vérité, c'est par contre assez inédit qu'un garde des Sceaux tienne ses propos et réagisse ainsi avant même d'avoir quitté les murs de la Cour de cassation. J'ai dit, je pense, ce qu'il fallait dire et qui correspond en réalité au constat objectif qui est porté sur l'institution et qu'il est notamment porté par la juridiction qui est chargée de surveiller la bonne utilisation des comptes publics, qui est la Cour des comptes. Reprenez les rapports de la Cour des comptes. Depuis 5-6 ans, ils mettent en évidence effectivement la nécessité pour l'institution de réformer et d'arranger ces difficultés structurelles qu'elle connaît, que j'ai rappelées tout à l'heure, carte judiciaire, évaluation de la charge de travail, et surtout mise à niveau du numérique et de l'informatique. On sera obligé d'en passer par là.
Si vous deviez attendre une décision des États généraux de la justice, ce serait laquelle, François Molins ?
Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une, parce que les problèmes sont tels qu'il y a de nombreux groupes de travail qui réfléchissent et travaillent sur la justice civile, la justice pénale, la prison, la protection, les statuts, les organisations, donc tout ça est extrêmement compliqué. Ce que je disais hier, c'est que de toute façon, quelles que soient les idées que pourra définir et que pourra dégager le comité des États généraux de la justice, auquel j'appartiens, dont il faut espérer effectivement qu'il y ait des propositions intéressantes et que ça aille dans le bon sens, ça renverra toujours et nécessairement à la responsabilité du politique. C'est lui qui aura à décider ce qu'il prend et dans quelle direction il veut aller.
Question de Jean-Philippe au Standard pour vous, François Molins. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour Monsieur Lévic, bonjour Monsieur Molins.
Bonjour.
Moi je suis époux d'un magistrat. Oui. Alors, en fait, je voulais parler aussi d'un problème de souffrance, mais en externe cette fois, c'est-à-dire le peu d'appétence et de formation des magistrats à faire savoir ce qu'ils font réellement, notamment au civil. Et Monsieur Moins, par la force des choses, en fait, a été amené à beaucoup communiquer, à très bien communiquer. Et je voulais savoir s'il pouvait réfléchir avec Madame Arens, qui est une autre voix qui porte énormément dans la justice, à une façon peut-être pour les magistrats d'être un peu plus entendus, communicants, et notamment quand ils sont publiquement attaqués un peu partout, de façon de faire savoir un peu vraiment, et qu'ils soient pas toujours obligés de se dire non, la réserve me retient et je laisserai dire sans rien faire, parce que ils l'accumulent, cette souffrance en interne, et ça finit par être très très dur.
Mmh. Voilà. François Molins vous répond. Merci Jean-Philippe pour cette question.
Oui, ben écoutez, on a réfléchi à ce que vous dites, monsieur, avec Madame Arens à plusieurs reprises. Je vous ferai deux types de réponses. La première, c'est que je crois que quand un magistrat est attaqué injustement, c'est le devoir de son chef de juridiction d'intervenir publiquement pour le défendre. Et la deuxième, qui est aussi dans votre question, c'est que je pense effectivement que les magistrats font des tas de choses magnifiques, très positives, mais on ne sait pas suffisamment le faire savoir. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Conseil supérieur de la magistrature, dans l'avis qu'on a rendu au président de la République le 15 septembre dernier, on a émis l'idée que puisse être désigné dans chaque juridiction un porte-parole qui puisse à la fois expliquer les décisions, mais aussi valoriser l'ensemble des modes de travail et des politiques juridictionnelles qui sont menées effectivement dans chaque tribunal. Et ça, je pense que ça serait très positif.
Dans votre discours également hier, François Molins, la question de l'indépendance du parquet. Comment avancer sur cette question, que les nominations de procureurs soient soumises à un avis conforme et non consultative du Conseil supérieur de la magistrature? C'est la grande piste.
Oui, mais là aussi, j'ai voulu indiquer effectivement qu'on est dans une logique dans laquelle depuis le début des années 2000, on accroît considérablement, et je pense que c'est bien, les pouvoirs du parquet, et qu'on arrive à un point tel que l'évolution logique des choses doit être de consolider et de renforcer leur garantie statutaire de nomination, et non pas de dégrader ce statut en faisant quelque chose qui s'assimilerait à un fonctionnaire, comme dans certains pays, et auquel la protection des libertés individuelles ne gagnerait pas. Donc la logique, effectivement, c'est de sanctuariser tout ça, de le consolider, pour effectivement mettre fin à toute polémique sur la suspicion qui peut entourer certaines nominations. Et j'ai qualifié ça hier d'arlésienne de la Ve République.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Effectivement, on en parle depuis 25 ans, mais elle n'est pas là, cette réforme. Donc un beau jour, il faudra qu'elle arrive pour venir effectivement apporter effectivement les garanties qui sont nécessaires à un exercice, on va dire, serein et équilibré de ses fonctions.
Dans le débat public ces dernières semaines, deux sujets qui posent des questions générales de droit. Plusieurs candidats à la présidentielle, dans la foulée d'un débat ouvert en Pologne, contestent la primauté du droit européen sur le droit national. Article 55 de notre Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. Donc plusieurs candidats appellent à modifier cette règle. Ce serait un bouleversement profond de notre système juridique.
Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre de discours, qu'au contraire, il faut le combattre parce qu'il est, à mon sens, dangereux. L'état de droit, c'est pas simplement, c'est ce que dit souvent le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, c'est pas l'état du droit, c'est effectivement un ensemble de systèmes de valeurs qui transcendent tout ça, et qui aujourd'hui est un système fondé sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Et je pense pas que ce soit en faisant, attaquer et contester la valeur, effectivement, des décisions prises par Bruxelles. Je rappelle aujourd'hui que l'Europe fonctionne sur la base de délégations qui lui ont été consenties. C'est pas un État fédéral. Hein. Chaque pays a consenti des transferts de compétences à l'Union, et c'est sur la base de ces compétences consenties que l'Union, aujourd'hui, détermine un certain nombre de choses. Donc, effectivement, il faut effectivement savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut que soit l'Europe de demain? Je pense que, vraisemblablement, ce sera un des thèmes forts de la présidence française pour les 6 mois qui viennent de s'ouvrir.
L'automne a été marqué par une nouvelle affaire d'agression sexuelle très médiatisée et la justice remise en cause de deux manières. D'abord sur la prise en charge de celle qui se présente comme victime, délai de prise en charge, classement des dossiers, et puis la question de la prescription sur laquelle on reviendra après. Comment améliorer la prise en charge?
Je pense que la prise en charge, ça ne peut pas se régler effectivement par des normes et des textes législatifs ou réglementaires. C'est un combat permanent. Je pense que on n'aura jamais la perfection, mais il faut l'atteindre en permanence, en ayant le souci constant de faire des retours d'expérience sur ce qu'on fait, de corriger. Je parlais toujours à l'époque de chasse aux angles morts. C'est un exercice permanent pour améliorer en permanence les dispositifs. Et je pense que c'est quelque chose c'est une culture qui doit se propager à tout. C'est une véritable culture de la victime. Et en tout cas, culture de la prise en charge, qui doit véritablement irriguer l'ensemble des services de police, de gendarmerie et de justice. Donc c'est vraiment un travail de petits pas. Et je pense un travail au long terme, si on veut vraiment arriver à des situations satisfaisantes pour les victimes.
Sur le sens de la prescription, au fond, c'est une question quasiment de première année de droit. On voit bien dans ces affaires que on bute contre cette prescription et que les victimes se disent il y a une injustice. Est-ce que vous pouvez tout simplement rappeler le sens de la prescription? Pourquoi, au-delà d'un certain délai, la justice ne peut pas traiter une affaire?
Parce que derrière la prescription, il y a le droit à l'oubli qui fait qu'on a beau avoir fait des grosses erreurs ou commis des infractions, au bout d'un certain temps, la société a plutôt intérêt à passer l'éponge entre guillemets et à faire en sorte que la personne qui a fait une faute se réinsère dans la société, plutôt qu'à vouloir remettre, effectivement, toujours sur l'ouvrage, des choses qui sont extrêmement anciennes. Donc il y a effectivement un équilibre à trouver entre les nécessités de la répression et la gravité de certains crimes, étant entendu que, passé un certain temps, il devient extrêmement difficile de juger.
Et on se retrouve, ce sera ma dernière question, dans une situation où, au fond, ces affaires sont plus susceptibles de poursuites au plan judiciaire, mais continuent de vivre dans la presse, à travers des témoignages, des tribunes, des enquêtes. Qu'est-ce que vous dites? Chacun est dans son rôle ou on frise le tribunal médiatique?
Mais là encore, je pense qu'on frise le tribunal médiatique si on ne prend pas au niveau des médias un certain nombre de précautions dans la façon de présenter les dossiers pour essayer de sauvegarder la présomption d'innocence. Parce qu'effectivement, la présentation de certaines situations dans les médias peut contribuer à susciter un sentiment de culpabilité de la personne, alors qu'en réalité, parfois, elle n'a même pas eu l'occasion de se défendre. Et ça, je pense qu'il faut lutter contre cet écueil. Le vrai tribunal, c'est le tribunal judiciaire, dans le respect des règles du procès équitable.
Merci François Molins d'être venu dans le studio de France Inter. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Le journal de Julien Green, tome numéro 2.
Et oui, comment un membre étranger de l'Académie française a existé avant Vargas Llosa aimait la France.
C'est dans 10 minutes avant cela, le feuilleton avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
L'année Molière commence 400 ans après sa naissance, on en parlera pas mal cette semaine sur France Inter. À partir de demain, Tartuffe, mise en scène par Macha Makeyev, est présentée au Théâtre National de Nice. Et Macha Makeyev est à votre micro, le temps d'une chanson aujourd'hui.
Et c'est d'une chanson du britannique Cat Stevens. Britannique, oui. Il est Cat Stevens. C'est d'une chanson de Cat Stevens qu'elle a choisi de me parler. Monde sauvage. Wild World, l'un des grands succès de son quatrième album. Titre composé suite à une séparation. Mais Macha Makeyev y a toujours vu un message positif, encourageant, protecteur.
Cette chanson est dans ma vie comme un signal. Ça l'a été quand j'ai débarqué à Paris, étudiante. J'avais 3 sacs, un sac à main et 2 sacs dans lesquels j'avais quelques vêtements, puis dans l'autre une chaîne, puis des vinyles. Et j'avais 3 vinyles, dont celui-là, Tea for the Chairman. Et je suis arrivée dans ma chambre de bonne, de nuit. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai branché ma petite, c'est même pas une platine, c'est un tourne-disque avec 2 baffles lamentables. Et j'ai écouté cette chanson. Et je l'ai entendue comme quelqu'un qui ne m'avait jamais dit ça jusque-là. Fais attention à toi. C'est un monde sauvage, mais il est aussi plein de promesses.
C'est une chanson qui a été écrite après une rupture?
Oui, mais ça va au-delà, je pense, de quitter quelqu'un. C'est quitter quelque chose, c'est quitter un lieu, c'est quitter une première séquence de la vie. Je l'ai entendu comme ça, je veux dire, tu quittes tes parents, Marseille, toutes ces choses-là, tu arrives à Paris, je connaissais absolument personne pour de vrai, et j'avais eu une première séquence un peu difficile, que je transportais comme un autre sac invisible, et là, tout d'un coup, il y avait comme quelque chose qui allait me protéger, qui me disait, fais attention, mais peut-être qu'on veille sur toi aussi. Ça sonne gay, c'est triste, ça sonne triste. Et c'est gay, c'est le génie de Cat Stevens. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Smile.
Et c'est en 1970 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Au mois de septembre 1970, Masha Makayev venait d'avoir 19 ans.
C'est une époque aussi que j'aime beaucoup, les années 70. On critique beaucoup cette époque, on la voit comme une époque très laxiste, etc. Mais il y avait une insouciance aussi, même si c'était difficile, même si on connaissait rien, qu'on n'était pas accompagné quand on était très jeune. Il fallait même se sauver quelquefois. On se sauvait, mais on avait le sentiment que quelque chose nous attendait. Et les chansons étaient très très importantes qu'on écoutait dans nos chambres, vraiment.
C'est une chanson qui vous arrive de fredonner ?
Oui, oui, mais aussi de la dire aussi. Now that I lost everything to you, you say you wanna start something new. Dès que je l'entends, le compteur se remet à zéro. C'est-à-dire que elle est intacte pour moi. Le signal, le message qu'il y a est intact. Et puis maintenant, c'est un lien tacite avec mes enfants. J'ai 4 enfants qui sont grands maintenant. Et quand ils veulent me dire quelque chose, ils m'envoient le lien et je mets Wide World. Et c'est ma façon de leur dire aussi Beware, girl and boy. Et quand on se retrouve à la maison, comme on ne se fait pas des grandes déclarations, dans la playlist, il y a Wide World.
Wild World, Cat Stevens. C'était donc, Frédéric, le choix de Masha Makayev.
Directrice du théâtre de la Criée à Marseille. Et le Tartuffe qu'elle a mis en scène est en ce moment en tournée cette semaine au Théâtre National de Nice, puis en février à Angers. Ensuite, ce sera Villeurbanne, Toulon, Rennes, Bayonne, Créteil, Amiens et Caen.
Merci Frédéric Pommier. Le deuxième épisode de notre feuilleton à présent avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani, une femme à la direction d'orchestre, elle qui est toujours à Pantin, Seine-Saint-Denis, où elle a grandi. Elle a 43 ans et elle a dû franchir un peu plus d'obstacles que les autres. Conversation avec Amélie Perrier, elle parle d'abord de l'attirance pour la musique.
Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que quand j'étais petite, j'avais demandé une guitare au Père Noël. Donc en fait, pour moi, c'était évident que je ferais de la guitare et que je continuerais dans cette voie-là. J'adorais cet instrument. Et puis comme j'étais aussi quelqu'un parfois d'un peu réservé, quelque part, la guitare, on est un peu dans sa bulle où on est tout seul avec la musique, tout seul avec un instrument. Et c'est des moments qui m'allaient bien. Et en même temps, je voyais ma sœur Fethouma faire de l'orchestre. J'entendais ses symphonies à la maison et je me disais, mais moi, j'ai envie de faire partie de cette aventure, j'ai envie de faire partie de cet univers de l'orchestre. Du coup, j'ai décidé de faire de l'alto. J'étais tellement impatiente de faire de l'orchestre que dès que j'ai commencé à faire de l'alto, j'ai beaucoup travaillé, ce qui m'a permis, pas longtemps après, de pouvoir commencer à faire de l'orchestre.
Donc vous découvrez l'orchestre, et à quel moment vous vous dites « moi, je peux être chef d'orchestre » ?
Bah, en fait, ça s'est fait à la fois vite et pas vite. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours fascinée par ce rôle-là d'associer les musiciens ensemble, de donner des indications musicales auxquelles on devait tous se conformer. Et c'est vrai que petit à petit, moi, je commençais à analyser avec beaucoup de sens critique, mais dans le bon sens du terme, ce qu'ils nous disaient. Et donc, j'ai commencé à emprunter des conducteurs d'orchestre à la partothèque du conservatoire. Et pour moi, ça a été une énorme découverte, un déclic énorme. C'est comme si je me plongeais dans ce monde quelque part qui m'attendait et qui est aujourd'hui celui dans lequel je m'épanouis le plus. J'avais l'impression que c'était un chemin évident pour moi et en même temps comme si c'était un rêve que je réaliserais jamais parce que tous les chefs d'orchestre que je voyais, c'était des hommes assez âgés, même très âgés. Et puis qui venait plutôt de pays européens. Donc moi qui ai grandi dans mon petit quartier en banlieue d'origine algérienne, une jeune femme, pour moi c'était très difficile.
Zaya et Fethouma deviennent deux lycéennes brillantes avec des emplois du temps très chargés. Elles sont alors admises au lycée Racine dans le très chic 8e arrondissement de Paris qui propose des horaires aménagés pour les jeunes musiciens de haut niveau.
D'un seul coup, ça a été un grand choc pour nous d'aller dans le 8e. On nous regardait différemment. Ah, vous êtes les filles qui venaient de banlieue, vous êtes les filles qui venaient de la Seine-Saint-Denis. Comment ça se fait que vous êtes aussi brillantes alors que vous venez de la Seine-Saint-Denis ? Donc au départ, avec ma sœur Fethouma, ça nous a un petit peu abattus et après on s'est dit plutôt que de rester un petit peu dans cette position de victime, de lourdeur, on va au contraire se dire, bah tenez, on va vous montrer que non seulement on est brillante, on a des qualités, on a du talent, mais qu'au contraire, en étant différents les uns et les autres, on peut arriver à faire aussi des grandes choses ensemble.
Et puis, il y a la rencontre lors de masterclass avec un grand chef d'orchestre, Tchéli Bidak, une rencontre déterminante pour Zaya Ziwani.
Il m'a dit, ah, écoute Zaya, il faut vraiment que tu t'accroches parce que souvent les femmes manquent de persévérance. Alors bon, en tout cas, c'était une façon de m'alerter de la difficulté du chemin que j'allais entreprendre. Et à chaque fois qu'on m'a dit non, c'est pas fait pour toi, moi, ça m'a au contraire boosté pour faire encore plus, de faire mieux, de prouver que c'était possible. Et moi, peut-être, ce que je retiendrai des belles personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, que ce soit à titre personnel ou dans la musique, c'est que ça a toujours été des gens qui ont été exigeants avec moi. Et je trouve que ça, c'est important et ça caractérise aussi cette attention que moi, j'ai à mon tour envers les jeunes que je rencontre dans les projets que je porte. Parce qu'en fait, on a tous du potentiel. Moi, j'en avais à l'époque, il n'y avait pas de raison que je ne m'autorise pas à aller le plus loin possible, à être peut-être une grande chef d'orchestre, une grande musicienne, pourquoi pas une grande avocate ou autre, mais de pouvoir aussi s'autoriser des grandes ambitions.
La chef d'orchestre Zaya Ziwani, on la retrouve demain avec Amélie Perrier. Le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire autour du journal de Julien Green. Vaste journal qui paraît en version non expurgée depuis 2 ans. Le premier tome, c'était il y a 2 ans. Il avait choqué. On avait découvert sa fin sexuelle, homosexuelle, absolument insatiable. Julien Green, faut-il le rappeler, grand écrivain né à Paris en 1900, resté américain comme sa famille. Voici le deuxième tome, Jean Lebrun. Et là, c'est la France qui passe au premier plan. Nous sommes entre 40 et 44.
Alors, le premier se terminait en juin 40, sur un récit d'ailleurs bouleversant. Il n'était pas question pour Green de demeurer dans une France occupée par les nazis, célèbre, aisé, détenteur d'un passeport des États-Unis. Il lui était assez facile de passer les Pyrénées, mais il n'avait pas voulu le faire sans son compagnon, Robert de Saint-Jean, qui, lié au dernier gouvernement de la République, était dans le viseur de l'équipe Pétain-Laval. Ne pas se séparer, sauver Robert, ce ne fut pas une mince affaire. Enfin, les deux hommes se retrouvèrent outre-Atlantique, où ils furent tous deux très actifs dans la France libre. Entre sa jeunesse et Green, un abîme s'était ouvert avec la guerre. Et autre rupture, il avait entamé une conversation avec le catholicisme dès avant 40. En Amérique, il va s'astreindre à l'exercice de la chasteté, enfin du moins dans les premières années. Le rapport avec Robert de Saint-Jean, c'est pur. Le bonheur avec son compagnon lui semble passer par son propre progrès spirituel. Et Robert, selon Julien, aime ce qu'il devient.
Et le journal se transforme en une méditation sur la France, vue de loin, par un étranger qui lui appartient de très près, mais sans en avoir la nationalité.
Alors une France à laquelle il est heureux de parler chaque jour, à la radio, via des disques envoyés à la BBC. La France libre est mal organisée en Amérique, mal vue aussi de l'administration Roosevelt. Green y adhère cependant sans réserve. Le sort du pays, dit-il, est désormais entre les mains d'une poignée d'exilés, dirigés par le général de Gaulle, un oiseau noble et triste qu'il admire à l'égal d'un personnage de nos tragédies du XVIIe siècle.
Et la guerre est interminable.
Une nuit d'angoisse où l'aube ne pointe pas. Mais il est des signes ténus qu'il faut voir comme une sourde lumière dans une pièce obscure. C'est le rôle des mots que de tenter de capter ces instants. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. C'est Peggy qui affirmait cela. Peggy que Green aux États-Unis traduit inlassablement en anglais. On s'étonne qu'aujourd'hui, la droite dure française fasse de nouveau référence à Maurras, condamné pour collaboration, alors que Peggy est toujours disponible. Peggy, le grand poète dont le vent de la France tout entière gonfle les voiles. Pour Green, la poésie relève des mêmes régions de l'âme que la mystique, et il regrette d'ailleurs que la France oublie sa littérature mystique.
Et puis c'est le retour.
Dès 1944, Robert de Saint-Jean avait été envoyé pour une courte mission en France. Il avait rapporté quelques échos de la capitale. Il n'y a plus d'électricité, disait-il, pourtant au lit, au fond de l'âme de Paris. Julien est impatient de rentrer, il est davantage américain qu'avant, mais il ne voudrait pas devenir quelqu'un à qui la France ne manquerait pas. Il doit remplir nombre de formalités. Il n'aborde au Havre qu'en septembre 45, du bateau accompagné par les démineurs. Il voit dans la lumière quelque chose de tendre, d'estompé, qui prête à la rêverie. Et aussitôt, il se sent de plein pied dans la capitale. Tout simplement, comme avant, il retrouve les petites églises qui lui sont chères, Saint-Julien le Pauvre plutôt que Notre-Dame, et aussi ses vadrouilles de drague dans un Paris qui, dit-il, un peu affolé, est envahi de jambes nues et de beaux visages. Une dame à un dîner lui dit « Je hais l'Amérique, monsieur. Sans doute, répond-il. La connaissez-vous mal? Moi, je l'aime parce que je suis américain. Mais en lisant vos articles, répond la dame, pendant la guerre, on avait l'impression que la France vous manquait. On peut, madame, aimer deux pays à la fois. De toute façon, à lire le journal de Green, on a l'impression qu'il n'y a pas un moment de sa vie où il n'ait été amoureux.
Le second volume du journal intégral de Green paraît chez Bouquin. Le troisième est déjà paru. Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire. À demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au carré aujourd'hui?
Eh bien, le loup, Bruno, qui gagne du terrain en France.
Ah ouh, à tout de suite.
Ouais.